Voix Nue. Toute cette semaine, en hommage à Didier Lockwood récemment disparu, nous réécoutons sa rencontre avec Monette Berthommier, enregistrée en 2007.
Didier Lockwood, vous avez fait votre premier CD en Allemagne. Et parallèlement, si je me souviens bien, dans votre livre, vous dites que vous continuez de temps en temps à faire la Manche, au Flore ou ailleurs, non ? C'est à cette époque-là, vous continuez de temps en temps à sortir avec votre violon
Oui, parce qu'il y a des périodes durant lesquelles je ne travaillais pas, hein, où il n'y avait pas, de concert. Mais une petite Manche n'a jamais fait de mal à personne. et c'était l'hiver même, parfois je jouais avec des mitaines et... Non, c'est bien. Et puis, on reste quand même des troubadours. Je me souviens, c'était devant c'était les deux magots chez Flo, je me souviens plus bien. Il y avait Patrick Dever qui était donc à la terrasse et qui m'avait donné à l'époque un billet de 50 francs. J'étais aux anges. Donc, pas pour le billet de 50 francs, mais parce qu'il avait apprécié. Voilà, donc on a besoin de se retrouver dans le regard des autres aussi, et pour ça, tous les moyens sont bons.
Après ce premier CD, j'imagine que vous avez été demandé encore plus qu'avant.
Oui, ce premier CD, d'abord, a été très bien accueilli par la critique, et surtout par la critique américaine, et un journal qui est très important, un journal spécialisé, qui s'appelle Downbeat, qui est un peu, on va dire, la bible du jazz mondial. Et j'avais reçu 3 étoiles, donc la meilleure note pour ce disque. Et c'est à partir de ce moment, effectivement, qu'on m'a encore demandé que ma carrière, en fait, mondiale, et je dirais européenne surtout, s'est développée, notamment par cette invitation de Dave Brubeck au Festival de New York, donc... qui m'invitait au Carnegie Hall. Et c'est vrai que c'était inouï pour moi d'aller jouer. J'avais à peine 22 ans, je crois, d'aller jouer au Carnegie Hall. Pourtant, lorsque j'avais 16-17 ans, je m'étais promis que lorsque j'aurais 21, 20, 22 ans, dans ma vingtaine, j'irais jouer au Carnegie Hall. Et j'allais les jouer aux États-Unis.
Mais vous saviez déjà où ?
Oui, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours su à peu près ce que j'allais faire. Et c'est extraordinaire. Jusqu'à l'élaboration, la construction de mon école, je savais qu'à 45 ans, j'aurais une école. Et à 45 ans, j'ai eu une école internationale. Donc ça a toujours été comme ça. J'ai toujours décidé de ce que je voulais faire. Et bon, je touche du bois, mais je l'ai toujours. Ça s'est toujours produit. Donc c'est vrai que ce disque, ces concerts, tous les grands festivals m'ont invité. J'en ai profité pour former un groupe, un quartet, donc qui est parti sur la route. Et puis je suis revenu à mes amours, le jazz rock, parce que le jazz rock c'était la grande époque, et puis c'était l'époque où j'avais 20 ans, 22 ans, donc c'était l'époque où il fallait séduire les foules, les publics, les jeunes publics. Le jazz n'était pas encore redevenu vraiment à la mode, alors j'avais ce groupe de jazz rock, mon premier groupe. Et on faisait un tabac, c'était pantalon de cuir, etc. Et on avait un public très jeune. Mais je peux pas dire que la musique était d'une haute portée intellectuelle. Mais enfin, c'était une musique très vivante. Et donc, ces années ont été consacrées un peu à cette musique, tous ces enregistrements, qu'ils soient dans la firme MPS, hein, toujours cette firme allemande. J'ai fait 4 ou 5 disques dans cette firme. Et surtout cette rencontre avec Jean-Marie Salani, éditeur, producteur, JMS Records. Et je crois que ça a été vraiment mon Ken Belair, on va dire, du jazz. Il a extrêmement intelligemment construit le début de ma carrière.
C'est important d'être bien épaulé comme ça.
Oui, oui, c'est très important. Donc il m'a catalysé, il m'a canalisé plutôt, il m'a défendu, il m'a protégé. Et ça a été pendant 10 ans, on va dire, une ascension inespérée, puisqu'il a, il a réussi à me sortir en fait du circuit, on va dire, un peu marginal de cette musique instrumentale, qu'elle soit jazz ou jazz rock, pour me faire vraiment rentrer dans le circuit, on va dire, un peu plus public, un peu plus, entre guillemets, people. Donc, j'ai eu la chance d'être un des rares artistes de jazz à sortir du cadre marginal de cette musique, donc de devenir un peu plus grand public.
Effectivement, j'ai été impressionnée quand vous citez le nombre de CD vendus. Qu'un artiste vende 50 000 CD c'est de jazz,
Oui, tout à fait. Et j'ai même dépassé, puisqu'avec Jean-Marie, Salani, on avait fait un disque Out of the Blue qui s'est vendu à 70 000 exemplaires. Mais parce que c'est vrai aussi que l'image de Séverine Grappelli et la médiatisation qu'elle a provoquée, puisque dès que j'ai été parrainé par Stéphane Grappelli, j'ai quand même été sollicité par les grands médias à l'époque qui s'intéressaient encore à cette musique. Donc ça m'a tout de suite ouvert les portes du grand public. Et c'est vrai que les concerts étaient toujours pleins. Et c'était assez impressionnant.
Les rencontres musicales à cette époque, les grandes rencontres importantes pour vous, il y a eu Jean-Luc Ponty négativement presque. Hein
oui, alors Jean-Luc Ponty, c'est... je ne sais pas si je dois en parler encore...
C'est un regret.
Oui, c'est un regret, puisque moi, comme un gamin, comme le gamin que j'étais, qui avait son idole qui était Jean-Luc Ponty, eh bien, il voulait ressembler à Jean-Luc Ponty et il voulait devenir un Jean-Luc Ponty quand il serait plus grand, comme un enfant a envie de devenir pompier. Moi, c'était, je voulais faire Jean-Luc Ponty. J'ai été très attristé, je suis très attristé de...
D'avoir raté la rencontre.
Pas l'avoir raté, je crois que Jean-Luc Ponty, j'ai l'impression que malgré tous les signes que j'ai tenté de lui lancer pour lui dire toute mon
presque l'admiration,
toute mon admiration, il vient de me répondre très récemment après la sortie du livre que je lui avais envoyé avec une dédicace. Une lettre qui m'a un peu, je dirais, choqué. Mais il a très mal supporté, en fait, j'ai l'impression, le fait que je fasse une carrière. Et ça m'a... Je ne comprends pas pourquoi. Je voulais pas le faire souffrir à ce point-là. je sais plus quoi lui dire, je ne sais pas quoi... répondre à ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une déchirure, c'est quelque chose de... j'ai l'impression d'avoir cru, j'ai cru en lui, et tout d'un coup, bon, on voit que tout ça s'écroule, ça fait un peu bizarre, quoi.
Il y a eu d'autres rencontres.
Il y a eu d'autres rencontres, oui, et puis des rencontres avec des gens formidables.
La première, peut-être, ça a été John McLaughlin.
John McLaughlin, que j'ai rencontré lorsque j'étais à Valoris. Ça, c'était rigolo, puisque il venait de jouer à Antibes, mais moi, j'étais en train d'enregistrer un disque avec mon frère, qui n'était pas mon premier disque solo, mais un disque qui s'appelle Lockwood, et qu'on avait enregistré avec Francis. Et puis après, un soir, après notre enregistrement, on va dîner à Valbonne, dans une pizzeria, et à un moment donné, rentre toute l'équipe de John McLaughlin et de Mahavishnu. C'était mon idole aussi, McLaughlin, puisque Jean-Luc Ponty jouait à l'époque. Il n'y avait pas Jean-Luc Ponty ce soir-là, il n'était pas venu manger avec eux. Et je me suis décidé d'aller... lui parler à la table et lui demander s'il voudrait bien venir faire un jam session au studio d'à côté. Et il a discuté un peu avec ses amis, puis il a dit ben, pourquoi pas. Alors, on était excités, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de cymbales. On avait une batterie, on avait tous les instruments, mais il n'y avait ni cymbales de Charleston, ni cymbales. Alors avec mon frère, on dit oh, « ça va être dur, on ne va pas pouvoir jouer avec le batteur, etc. etc. » Et puis on se souvenait qu'à chaque fois qu'on prenait l'autobus en descendant de Valoris, à l'arrêt de l'autobus, on entendait un batteur jouer dans un immeuble. Et donc à 11h du soir, on décide d'aller taper à la porte, c'était à 10 km, à taper à la porte
du batteur,
on ne savait même pas, hein, on disait c'est peut-être au premier étage ou au deuxième, donc on tape à une porte, et là il y a un jeune garçon qui nous ouvre la porte et qui venait de se réveiller, ou qu'on venait de réveiller, et on lui demande si c'était lui le batteur. Il fait, alors il nous dit avec un accent un peu américain, italien, franco-américain, oui c'est moi le batteur, mais qu'est-ce qu'il y a? Et on lui dit de but en blanc, que tu veux venir faire le bœuf avec John McLaughlin. Le gamin avait 16 ans et d'un coup, on le réveille pour lui dire de venir faire le bœuf avec John McLaughlin. Alors il nous prend pour des fous. On arrive à le convaincre et il prend ses cymbales. Et effectivement, on arrive au studio, il y avait toute l'équipe et on a joué jusqu'à 3h du matin. Et ce jeune batteur est devenu un batteur très connu ici maintenant en France, qui s'appelle Kurt Rust et qui a fait partie de mes groupes à l'époque. Donc ça, ce sont des rencontres... extrêmement sympathique. Alors les autres rencontres, mon Dieu, il y en a des multiples. Il y a mes rencontres avec Furtive, mais tellement agréables et extraordinaires, avec Stan Getz au Festival de Nice, avec Elvin Jones, avec Freddie Hubbard, avec tous ces grands musiciens, les Breaker Brothers, tous ces grands musiciens. Et puis après, il y a eu ces rencontres avec les chanteurs, puisque on m'a demandé souvent de venir jouer du violon ou venir jouer des solos dans des disques de chanteurs de variété. Moi, je pense à Claude Nougaro, pour qui j'ai écrit une chanson, notamment Barbara. Pour qui j'ai joué dans son dernier enregistrement, Jacques Higelin, avec lequel j'ai travaillé quand même assez longtemps, puisqu'on a fait plus d'un an de tournée ensemble.
Belle comme une fleur qui s'ouvre au premier rayon du soleil levant, comme ces fruits mûrs que l'on trouve dans les pays.
Ces gens extraordinaires, et puis des gens inconnus aussi. Alors ça, c'est la magie des voyages, et le jazz pour ça est une musique extraordinaire, puisque c'est une musique instrumentale. On n'est pas freiné par le langage des mots, donc on peut aller dans le monde entier, et donc ça m'a fait visiter pratiquement tous les continents, tous les pays. J'ai fait pratiquement 3 tours du monde avec mon violon. Et là, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, que ce soit en Inde ou en Afrique, des gens qui ne seront jamais connus, inconnus, mais des personnages magiques.
Des musiciens,
des danseurs, des artistes d'art plastique, puis parfois des simples personnes qui sont des gens qui ont une philosophie dans leur complexité de vie et leurs difficultés qui laissent à réfléchir.
Et du point de vue musical, vous avez pu apprendre des choses de ces musiciens qui vivent ailleurs ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, mon violon est devenu à ce niveau-là un passeport. Et chaque page contient des tampons, de mes rencontres différentes. Quand je suis en Inde, je rencontre les musiciens, les violonistes indiens, le Subramaniam, El Shankar ou même Ravi Shankar, avec lequel nous avons fait un concert donc en Inde. Et puis ces musiciens brésiliens, par exemple, quand je vais au Brésil et que je rencontre tous les Gismonti, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais ces musiciens extraordinaires. Donc, à chaque fois, je ramène chez moi des images, des bouts de musique, des bouts de photos. C'est un album de photos musicales. C'est pour ça que, en fait, je n'essaye pas de rejouer la musique, les musiques traditionnelles, mais simplement de me souvenir des parfums et des émotions qu'elles m'ont données, et simplement en faire un croquis, le croquis de ce qui m'en reste, comme un parfum qu'on n'oublie pas, et qui va nous revenir en tête comme ça, même si on n'arrive pas à expliquer, à exprimer son contenu.
Oui, parce que l'improvisation, ça permet aussi de temps en temps de citer, même si c'est qu'un instant, non ?
L'improvisation, c'est un voyage. C'est voyager à travers tous les styles et avoir la liberté. Et avoir aucune contrainte esthétique, ou je dirais même philosophique, de devoir respecter, on va dire... ou je dirais même dogmatique, de devoir respecter une éthique musicale ou un style musical. Je crois qu'aujourd'hui, la musique du futur, c'est justement cette possibilité, cette capacité de se renouveler à travers la connaissance de tous ces styles, de tous ces accents différents. Et la musique doit permettre de nous faire voyager aussi, et c'est pour ça que le concept du dernier disque, Globetrotter, fait appel tout à fait à ça, c'est-à-dire que c'est un carnet de bord, et de simplement, à travers des essences, on va dire, musicales différentes, se sentir transporté dans d'autres pays, sur d'autres continents, dans d'autres cultures, dans d'autres philosophies, dans d'autres manières de penser, puisque la musique implique une manière de penser, une manière de vivre. La musique indienne, la musique flamenco, même si elles ont des essences parfois communes, elles impliquent un tempérament différent. Donc c'est très important, c'est très enrichissant d'essayer de capter ça.
Du côté des gitans ?
Gitans, mais les gitans, les flamencos, la musique indienne, la musique africaine, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un lieu commun, il y a vraiment une base commune. Après, ce sont des accents, ce sont...
Les Cubains ont un autre accent.
Les Cubains, voilà, tout le monde a son accent. Comme en voyageant, je me suis aperçu que la couleur de la terre est différente partout. La terre rouge du Brésil n'est pas la terre rouge de l'Inde. Les ocres ne sont pas les... Et c'est ça qui est fantastique. Et donc la musique n'est pas la même. Les parfums ne sont pas les mêmes. La cuisine n'est pas les mêmes. Les saveurs ne sont pas les mêmes. Les regards ne sont pas les mêmes. Donc c'est cette multitude de différences, en fait, qui part d'une base commune qui fait qu'on peut avoir une richesse et métisser, puisque le métissage, à mon avis, on le sait, fait les plus beaux enfants.
Vous peignez pendant vos voyages, Didier Lecoud, ou simplement quand vous êtes tranquille chez vous ?
Malheureusement, en ce moment, je ne peins pas beaucoup et ça me manque. Je peignais beaucoup dans les voyages, je peignais quand j'étais en voiture, alors j'avais mes pastels gras et je travaillais avec ça, c'était un peu comme de l'huile. Mais ce que je déteste dans la peinture, c'est le temps de séchage de l'huile. Alors, c'est pour ça que l'acrylique, c'est pas mal, mais j'aime pas la froideur de l'acrylique. Donc, j'avais trouvé ce moyen terme avec les pastels gras, et c'est transportable. Mais maintenant, je peins beaucoup à l'ordinateur. Donc, j'ai des programmes, un programme de graphisme ordinateur, et j'y fais tous mes croquis. Alors parfois, je les reproduis sur papier ou sur toile. Mais là, je sais qu'en ce moment, on m'a demandé une exposition, donc il va falloir que je m'y remette. Et ça va reprendre du temps, parce que ça prend du temps. Mais c'est peindre, c'est un moment exceptionnel, puisque tout d'un coup, on est dans un autre rapport, et on est face avec sa toile, et on est déconnecté du monde. De la même manière que lorsque je travaille mon violon, que je compose. C'est difficile, parce que pour les autres, c'est difficile, pour ceux qui vivent avec nous.
Les rencontres, il y en a eu d'autres importantes pour vous, dont vous vous souvenez bien, Didier Lockwood?
Oui, il y a les rencontres, il y a les rencontres avec les personnalités, il y a les rencontres, mais il y a les rencontres avec les femmes. Et je crois que...
Ah, grand chapitre qui est lié au jazz aussi, à la musique, non?
Oui, oui.
Alors, et ça, vous en parlez très ouvertement.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on me dit « Ah oui, mais tu parles beaucoup des femmes ». Oui, puisque les femmes, pour moi, ça a été... je mentirais si je disais pas que ça a été un essentiel de ma vie. Pourquoi un essentiel? Parce que, d'abord, je trouve que je suis très amoureux des femmes. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et que la femme, en tout cas celle que j'ai rencontrée, ont toujours su faire sortir le meilleur de moi-même. Et à différentes périodes d'ailleurs. C'est elle qui m'inspire. Et que la femme, c'est pour moi, c'est la musique. Et quand je peins souvent des nues, des femmes nues. Parce que j'adore les courbes, parce que la femme est ternaire, et que c'est une référence, et que dans ma carrière et dans mon évolution artistique, elles ont été prépondérantes, parce qu'elles m'ont subi, parce qu'elles ont su aussi me canaliser, parce qu'elles ont su me faire grandir, elles ont essayé de me rendre un peu moins égoïste, égocentrique.
On va peut-être raconter la dernière rencontre avec votre femme actuelle.
Oui, c'était une émission que je tournais, un portrait que tournait Béatrice Soulet sur Arte, sur moi. Et j'avais invité, donc pour cette émission, carte blanche, un peu une multitude de musiciens, d'artistes de tout horizon, des musiques du monde, avec tout ce Hürgener, le flûtiste, qui joue du Ney. Il y avait Geoffroy Auriemma, le chanteur africain. Il y avait Magma, qu'on avait reconstitué pour l'occasion, il y avait des musiciens du groupe Zeb, il y avait, etc., Michel Petrucciani, naturellement, qui était là.
Et puis, grande rencontre, ça
oui, aussi. Michel était, on en parlera, oui, bien sûr. Mais il y avait aussi Barbara Hendricks, qui devait venir et qui n'a pas pu venir au dernier moment. Et donc, Béatrice Soulet m'a parlé d'une grande, une nouvelle chanteuse, superbe et avec une voix extraordinaire, qui s'appelait Caroline Casazzu. J'étais étonné de savoir que Jean-Claude Casazzu et ses deux garçons, Sébastien et Olivier, que je connaissais très bien, avaient une sœur. En tout cas, il m'en avait jamais parlé, il s'en était bien gardé. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu arriver Caroline au studio, j'ai été complètement choqué, je dirais pratiquement, de sa beauté et surtout de ce qui émanait d'elle, une rousse flamboyante.
C'est ce qu'on appelle le coup de foudre, peut-être.
Le coup de foudre est venu. J'étais impressionné et le coup de foudre est venu lorsqu'on a tourné la musique et en tout cas la séquence. Elle chantait Les Chemins de l'amour de Poulenc et elle m'a déclaré elle a chanté son texte d'une manière si réaliste qu'à un moment où le texte lui propose de poser ses mains sur mon corps, elle m'a regardé droit dans les yeux et j'ai été paralysé. Je le dis dans le livre. J'avais pas l'air plus malin qu'Obélix devant Falbala. Avec plein de petites bulles qui sortaient comme ça, et impossible de reprendre ma partie de violon. Donc ça se voit sur la séquence, et Béatrice Soulet a gardé cette séquence. parce qu'en fait, c'est exactement le moment où on a le coup de foudre. Donc, c'est très pratique parce que quand on a des différends, on se repasse la cassette, on dit, pour chercher le responsable. Mais oui, dès ce moment-là, on ne s'est plus quitté.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Monette Berthommier avec Didier Lockwood, enregistrée en 2007. À voix nue, réalisation Dominique Costa, Nathalie Salle, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.